Mon intervention aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des différentes communications effectuées au sein de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres en 2011 et au Collège de France en juin 2015, où je tentais de démontrer que la source des variantes graphiques, rasm, ainsi que des qira'at, variantes de lecture, n'était probablement pas la conséquence d'un enseignement prophétique, mais qu'elles tiraient leurs origines à la fois d'une transmission écrite ou manuscrite et d'une transmission orale fondée sur les différents dialectes des tribus arabes. C'est au fur et à mesure du temps que ces qira'at s'inscriront dans un processus de sacralisation leur permettant d'intégrer le texte coranique. En effet, pour l'orthodoxie musulmane, les qira'at, dénombrés à 42 systèmes de lecture, seraient le fruit d'une révélation divine. La question de la transmission du Coran et des qira'at, caractérisée par un dilemme entre l'oral et l'écrit, a toujours suscité l'intérêt des chercheurs occidentaux. Cette question fut récemment développée par des philologues occidentaux tels que Gregor Scholler, Manfred Kropp et François Desroches. Pour ce dernier, il y aurait plutôt une interaction entre une transmission orale et une transmission écrite. Dès lors, les qira'at seraient plutôt la conséquence d'une confusion née entre les habitudes orthographiques des premiers musulmans et des utilisateurs postérieurs des manuscrits. Au-delà de ces dilemmes entre l'oral et l'écrit, je souhaiterais ici vous présenter un autre paradoxe lié cette fois-ci à la transmission orale du texte coranique. Pour l'orthodoxie musulmane, cette transmission reste fidèle à l'enseignement prophétique, c'est-à-dire qu'il se serait transmis de génération en génération. Ce type de transmission, appelé « riwaya », reste jusqu'à nos jours sanctionné par une attestation, appelée « ijaza », dans laquelle figure la chaîne de transmission qui remonterait de génération en génération jusqu'à aboutir au prophète lui-même. L'orthodoxie musulmane, de son côté, se vantera d'être la umma de l'isnad. En effet, les savants musulmans ne cesseront de se distinguer des autres religions en évoquant l'argument de l'isnad, prétendant ainsi pouvoir authentifier leurs sources. Néanmoins, la réalité est bien différente et plus complexe. Il s'avère effectivement que certaines qira'at seraient probablement le fruit d'un procédé de déduction analogique appelé qiyas. Et en ce sens, ce procédé est antinomique à la transmission dite riwaya. Bien que les savants musulmans distinguent ce type de qiyas qui serait propre au qira'at de celui défini par la majorité des jurisconsultes en tant que quatrième source de loi, le mode opératoire reste malgré tout identique. Les jurisconsultes définissent le qiyas par un raisonnement analogique permettant d'appliquer une règle stipulée dans les textes à propos d'un élément particulier à un autre élément particulier pour lequel, cette fois-ci, les textes se sont tus, à condition que la raison d'être, appelée illa, leur soit commune. Par exemple, l'école chafirite interdira toute boisson fermentée qui provoque un état d'ébriété par analogie au vin, khamr, qui fut interdit pour cette raison. Ainsi, l'état d'ébriété, conséquence commune entre ces deux éléments, permettrait de valider le raisonnement analogique. Pour les qira'at, le procédé fut similaire. C'est probablement pour cela qu'Ibn Mujahid établira une corrélation entre les qira'at et les avis juridiques en matière de droit musulman fondé sur l'ijtihad. Comme vous pouvez l'observer ici, donc on a un élément de principe qui est mentionné dans les textes. Et voici ici donc ce qu'on appelle l'illa, la raison d'être, ou la raison pour laquelle le vin fut interdit pour l'école chafiite. Néanmoins, avant de montrer cette similitude et le paradoxe de cette transmission, je souhaiterais, par souci de clarté, vous présenter les différents systèmes de lecture et un exemple de chaîne de transmission. Donc là, nous avons les 10 qurra, donc les 10 grands lecteurs, Nafi' ibn Kathir, Abu Amr al-Basri, Ibn Amir, Asim, Hamza, Al-Kisa'i, Abu Ja'far, Ya'qub et Khalaf al-Ashir. Et on a ici donc un exemple. Donc ici, on a l'imam Nafi', Donc il y a deux rapporteurs qu'on appelle Rawi. Et pour chaque rapporteur, on a deux transmetteurs qu'on appelle Tariq. Donc pour Qaloun, par exemple, on a Al-Hulwani et Abu Nashid. Et pour Warsh, on va retenir Al-Azraq et Al-Asbahan. Donc voilà le système. Pour chacun des lecteurs, donc les 10 lecteurs que nous avons, il faut procéder de la même manière en évoquant pour chaque imam deux rapporteurs et pour deux rapporteurs, chaque deux transmetteurs. Donc ça nous fait à peu près 42 systèmes de lecture. Maintenant, je vous propose d'observer la transmission de ces qira'at à travers ce qui est communément appelé ijaza. Il convient de rappeler que ce mode de transmission propre au Coran est différent de celui de la tradition textuelle musulmane, al-hadith. En effet, les traditionnistes en énumèrent 8, dont je ne peux aujourd'hui, faute de temps, vous en faire la présentation. L'orthodoxie musulmane pense que chacun de ces systèmes de lecture discordants, ainsi que les variations de lecture différentes au sein d'un même système, seraient la conséquence de l'enseignement prophétique et que ce dernier se serait perpétré jusqu'à nos jours. Cette ijaza, attestation, que vous avez ici, donc cette ijaza, attestation en matière de qira'at, est de deux ordres. Le premier se définit par une ijaza verbale, appelée lafdhiyya, qui se serait effectuée probablement jusqu'à la fin du 3e siècle, voire au début du 4e siècle de l'ère musulmane, période de mise par écrit des qira'at. Le second se définit par une ijaza écrite, dans laquelle figure l'isned, donc la chaîne de transmission, qui aboutit au prophète. De nos jours, il y aurait, entre les maîtres contemporains et le prophète, entre 28 et 36 intermédiaires. Donc, ici, vous avez le prophète, et juste... Alors, excusez-moi. Voilà, ici, donc, Al-Allama Dr Mohamed. Donc il y aurait ici entre 28 et 36 intermédiaires. Tout dépendra des isneds. Moins il y a d'intermédiaires, plus cet isned est prisé. On l'appellera donc Ali, il est supérieur. Plus il y aura d'intermédiaires, moins il sera prisé, et on l'appellera par opposition Nazil. Dans la plupart des isneds, nous retrouverons mentionné Ibn Jazari, qu'on retrouve là, Al-Shatibi, ici, et Dani. Ils sont à leurs époques respectives le seul point d'intersection des qira'at. Ces deux types d'ijaza peuvent concerner une qira'at particulière, lue devant le maître, comme vous avez pu l'observer avec la variante ici de Asim, d'après Hafs, comme elle peut également désigner une autorisation à transmettre un ouvrage qui contient des qira'at sans pour autant les avoir lus devant le maître. Par exemple, un disciple peut lire le livre d'Ibn Mujahid, intitulé Al-Sab'a, devant son cheikh, sans pour autant avoir psalmodié ses 20 de lecture devant lui. Un autre exemple, cette fois-ci de l'Occident musulman, et plus précisément du Maghreb, montre clairement cette transmission dite ijaza, conformément à ce qui fut mentionné dans les ouvrages de Qira'at, bien qu'il n'ait lu de cet ouvrage qu'une partie. Prenons comme exemple At-Taysir de Dani ou bien le poème didactique de Shatibi. Ici vous avez une ijaza, donc un sama. Je ne vois pas très bien. Donc là, il nous informe qu'il a lu les 7 variantes de lecture selon ce qui a été mentionné dans l'ouvrage de Dani intitulé donc At-Taysir. Et pourtant, il nous dira un petit peu plus loin vers ici qu'il n'a lu qu'une partie Sadran min Kitab At-Taysir. Il a simplement lu une petite partie de ce livre, mais pourtant, devant le maître, il aurait apparemment lu l'ensemble de ces variantes de lecture. Ces deux exemples montreraient qu'en matière de qira'at, le terme ijaza se substituerait au terme riwaya, incarnant ainsi, pour l'orthodoxie musulmane, la transmission la plus fidèle à l'enseignement prophétique. En effet, la hijaza, serait un gage d'authenticité du contenu transmis et, à contrario, ne saurait être la conséquence du qiyas. La tradition musulmane mentionne ce type de transmission et la nomme sunnatun muttaba'a, qui signifie tradition suivie de génération en génération. Ces isnets de qira'at se seraient donc transmis de génération en génération sans le moindre ajout ou omission. C'est pour cela que la majorité des savants musulmans indiqueront qu'il n'y a aucune place à l'analogie en matière de qira'at. Que ce soit Abu Ubaid, Ibn Qutayba, Ibn al-Ambari, al-Mahdawi, Makki ibn Abi Talib, al-Shatibi, Ibn Jazari et d'autres contemporains tels que al-Dabba', Aymin Suwaid, Muhammad Sha'ban, Ihab Fikri, tous sont unanimes pour dire que les variantes de lecture ne sont pas la conséquence d'un qiyas. Par exemple, Ad-Dani, illustre savant andalou, dira dans son poème Al-Urjuz al-Munabbiha, qui fait 1311 vers, après avoir fait l'éloge des sept lecteurs choisis par Ibn Mujahid, wa nabadhu al-qiyas wal-ara'a wa salaku al-mahajjat al-baydha'a, ils ont délaissé le qiyas et les opinions et ont suivi la voie pure. Ce terme est attribué à la voie prophétique puisqu'il est relaté dans la tradition textuelle musulmane. Il rappellera aussi sans ambiguïté que toute vente de lecture n'ayant pas le prophète comme source et qui est non conforme à la lecture de la majorité des Qurra est invalide, même si elle est énoncée par un éminent savant. Il dira en ce sens, je le cite, « لَكِنَّهُ شَذَّ عَنِ الْجَمَاعَ فَلَمْ يَرَ النَّاسُ لِذَ اتِّبَاعَ » Et parce qu'il n'était pas conforme à la majorité, les gens, pour cette raison, ne l'ont pas suivi. Je continue, je le cite, بل أسقط اختياره وما روى من أحرف الذكر وكل ما قرأ. Et ils ont donc délaissé son choix et ce qu'il a apporté comme lecture coranique. إذ كان قد حاد عن الرواية ونبذ الإسناد والحكاية عمن مضى من علماء الناس وقال بالرأي وبالقياس. Je traduis, et cela du fait qu'il se soit écarté de la tradition tout en délaissant l'isnad et les récits de ceux qui lui ont précédé parmi les savants, et il a privilégié son opinion personnelle, al-ra'y, et l'analogie. Il évoquera également dans son livre Jami'ul Bayan les propos suivants. Les grands imams parmi les Qurra ne se fondent pas pour la transmission du Coran sur ce qui est le plus répandu et logique en langue arabe, mais il se base sur ce qui est le plus authentique. Lorsque cette transmission est validée, rien ne peut la contester, ni une analogie linguistique, et ni le fait que cette manière de parler est la plus répandue, et cela du fait que la qira'a est une tradition suivie, se transmettant de génération en génération, dont nous sommes obligés d'accepter. De son côté, al-Shatibi dira « Wa ma li qiyasin fil qira'ati madkhalun » En matière de qira'at, il n'y a pas de place à l'analogie. Rappelons ici, sur le plan grammatical, que le mot qiyas est indéterminé, nakira, ce qui implique, la proscription de toute forme d'analogie. La position de l'orthodoxie musulmane concernant le qiyas semble être unilatérale, du moins sur le plan théorique. En effet, les mêmes savants cités plus haut vont avoir recours au qiyas pour établir certaines variantes de lecture. Il convient de rappeler ici que les savants musulmans tentent de distinguer le qiyas en principologie et celui des qira'at. Néanmoins, ils s'accorderont qu'il est la seule réponse en cas d'absence de texte scripturaire ou de transmission du Coran par audition. Bien que le qiyas en question ici soit proscrit par un nombre de savants, il reste un mode opératoire et récurrent dans la tradition musulmane. À titre indicatif, Ibn Hayyan rapportera un récit attribué à Ibn Abbas, où ce dernier aurait récité le mot coranique « nun shiruha » parce que ce mot a déjà une occurrence coranique dans une autre sourate. Ce type de récit, à mon sens, a plusieurs incidences sur l'élaboration du corpus coranique et ses qira'at. Tout d'abord, il laisse penser que tous les compagnons, voire les plus éminents, ne mémorisaient pas intégralement le Coran. Ensuite, il montre qu'Ibn Abbas, ne sachant pas lire ce mot, et pour lequel il n'aurait pas reçu d'enseignement, a déduit cette lecture par raisonnement analogique. Dès lors, cet emploi du qiyas tire ses origines des compagnons. Enfin, cela suppose également qu'un support écrit, dépourvu de points diacritiques, portant à confusion la lecture possible du mot, semblait être à sa portée. Nous avons en effet trois lectures relayées par la tradition musulmane, Nunshiruha, Nunshizuha, Nunshuruha. Donc ici, vous pouvez observer donc cette graphie sans point diacritique. Donc on a, la tradition nous évoque trois variantes de lecture. La première, qui est la lecture d'Ibn Abbas, d'Ibn Kathir, Nafi', Abu Amr et d'Yaqub, qui est Nunshiruha. Donc ici, il faut imaginer un point Nun, Nun, trois points, Shiruha. Ici, c'est une lettre, donc, sans point, Ra. La deuxième lecture, Nunshizuha. Nun, donc Nun, Nun, Shin et un Zay. Et la troisième des lectures, qui est une lecture extra-canonique, donc Shaza, qui serait Nanshuruha. Ce qui me laisse penser que Ibn Abbas a procédé au qiyas parce qu'on lui a présenté, ou peut-être qu'il a lu sur un support cette graphie, et qu'il ne savait pas la manière dont il pouvait la lire, il a préféré utiliser le qiyas, puisque un autre verset coranique que je vous ai montré ici, donc Ansharahu, était probablement connu d'Ibn Abbas. Un autre cas tout aussi intéressant est celui de Asim al-Jahdari, savant spécialiste des qira'at et du rosm. Celui-ci met en évidence la volonté d'uniformiser de manière cohérente la lecture coranique. En effet, il aurait volontairement récité le mot « Maliki » du verset 3 de la sourate al-Fatiha, sans alif, donc « Maliki ». Auquel cas, il aurait été forcé de réciter le mot « Maliki » du verset 2 de la sourate 114, qui est « Maliki Nas », avec un alif. C'est-à-dire que s'il avait décidé de réciter le verset 3 de la sourate al-Fatiha « Maliki » avec un alif, avec une prolongation, il se serait senti forcé de réciter le deuxième verset de la sourate 114, « Maliki » aussi. J'attire votre attention encore une fois que le ductus consonantique pour ces deux mots est identique. Ils ont tous deux été écrits sans alif. Cette attitude continuera à être adoptée jusqu'au 5e siècle de l'ère musulmane. Ainsi, le grand savant andalou Makki ibn Abi Talib, dans son ouvrage « At-Tadhkira », nous explique la manière dont il a lu et sélectionné les qira'at. Je le cite. « Tout ce que j'ai pu recenser comme lecture, dit-il, se divise en trois parties. La première partie représente la manière dont j'ai récité devant mes maîtres, et celle-ci est citée dans les ouvrages de lecture. La seconde concerne la manière dont j'ai pu réciter au vu de ce que j'ai pu entendre, lafdan, ou qui m'a été transmis, sama'an, mais celle-ci ne figure pas dans les ouvrages de lecture. Et enfin, la troisième partie, je ne l'ai jamais lue devant un maître et ni lue dans un ouvrage, mais je l'ai déduite de mes lectures par procédé analogique. Nous sommes ici, si je puis me permettre, face à des aveux qu'au moins un tiers des qira'at relèverait du qiyas. Cette partie non négligeable va donc se voir intégrer le corpus coranique et va acquérir une sacralité sans pour autant être la conséquence d'un enseignement prophétique. Cette volonté de sacraliser le texte coranique mènera ses protagonistes à essayer de justifier de toutes les manières possibles tout ce qui est de près ou de loin en lien avec le Coran. Que ce soit la révélation coranique elle-même, sa transmission, sa langue ou la manière de le réciter. On tentera même d'élucider les mystères de la graphie coranique et les raisons mystiques des ajouts et des suppressions de lettres. Dabba', savant égyptien du milieu du XXe siècle, ira même dire que le rasm relève, donc que la graphie, relève d'un enseignement divin et que l'archange Gabriel aurait enseigné au prophète la manière d'écrire. Il se fondera sur un récit prophétique rapporté par Abu Hatim Sijistani, indiquant que l'archange Gabriel serait descendu dans la grotte de Hira avec les 5 premiers versets de la sourate 96, première révélation, écrit sur un morceau de tissu coloré. Ainsi, pour ce courant, il n'est pas raisonnable de parler ici de rasm uthmani, de graphie uthmanienne, mais bien d'un rasm prophétique, voire divin, en sachant que le prophète reste considéré par ces derniers comme un analphabète. La réalité se veut naturellement différente. Makki ne sera pas le seul à avoir recours au qiyas. Ad-Dani lui-même pratiquera et louera cette attitude dans son ouvrage Al-Ibana. Bien que cet ouvrage n'a toujours pas été retrouvé, nous en avons quelques fragments rapportés par certains savants qui lui sont postérieurs. Al-Qayjati rapportera les propos de Dani suivant, je le cite. La plupart de ce que nous avons évoqué dans ce livre, donc Al-Ibana, concernant les règles de lecture, s'appliquant à la lettre Ra et Lam, ne se fonde sur aucune tradition remontant aux imams. Ainsi, nous avons montré cela en l'expliquant et de manière synthétique, en analogie à ce qui a été évoqué dans les osoul, donc les fondements, les principes, justifiés par des traditions. Et le raisonnement analogique est valide dans toutes les règles de loi et auprès de tous les savants. En outre, Dieu l'a permis lorsqu'il dit « ceux qui l'auront déduit parmi eux ». Il ne faut en aucun cas considérer les propos de certains lecteurs qui se sont trompés sur cette question et dont ils sont incapables de discerner et de comprendre. Dès lors, ils ont contesté ce qui a été défini et expliqué. Néanmoins, nous le considérons comme qiyas valide. L'attitude de Dani est ambiguë et contradictoire. En effet, il autorise leur qiyas pour les qira'at, comme le feraient les jurisconsultes en matière de jurisprudence musulmane, alors qu'il proscrit à plusieurs égards ce recours en faisant l'éloge de la riwaya. Ce qui pose également problème est que ce type de qiyas est effectué par Dani 4 siècles après la dite révélation. Il aurait été plus cohérent pour Dani de se contenter de la riwaya. Ainsi, si nous suivons la logique de Dani et que nous n'avons aucune tradition pour un verset coranique, c'est que probablement il n'y a pas de lecture particulière pour ce verset. Par contre, si l'on a recours au qiyas parce qu'il n'y a pas de tradition et que ces lectures de facto s'accaparent le statut des qira'at, c'est qu'en réalité, il n'est probablement pas question de transmission fidèle à un quelconque enseignement prophétique, surtout que ces qira'at sont issus généralement des dialectes tribaux. Si nous devions nous contenter de ce qui a été transmis par le mode de sunna muttaba, pourquoi donc alors avoir recours au qiyas? Est-ce qu'une partie des ventes de lecture manquerait et n'aurait donc pas été transmise? Ibn Jazari, quant à lui, conscient de ce dilemme et de cette problématique, expliquera que le qiyas se définit de deux manières. Tout d'abord, le qiyas mutlaq, dit absolu, qui demeure proscrit, qui consiste à effectuer le qiyas sans pour autant avoir comme source une variante de lecture déjà stipulée. C'est-à-dire pour lui que tout qiyas n'étant pas déduit d'un fondement stipulé dans une des variantes de lecture est interdit. Le deuxième type, appelé qiyas muqayyad, dit relatif, est autorisé. Il est en ce sens déduit et conforme à un principe de lecture connu. Il est intéressant ici d'observer la terminologie usitée par Ibn al-Jazari. En effet, il emploiera la terminologie des jurisconsultes en utilisant les termes suivants, ijma', consensus, asl, principe ou norme, nas, texte scripturaire, darura, cas de force majeure, haja, cas de force mineure, et qiyas, raisonnement analogique. Il essaiera ainsi d'apporter à son argumentation consistance et force. Il n'est pas surprenant que cette terminologie propre aux jurisconsultes soit répandue au IVe siècle de l'ère musulmane, dans le domaine des qira'at, et vice-versa. Effectivement, c'est à partir du Ve siècle de cette ère, et avec Ibn Abd al-Barr, savant andalou, qu'on observera comme un accord des jurisconsultes qui favorisera, excusez-moi, d'une part l'exclusion des variantes extra-canoniques du corpus coranique et d'autre part qui rendra toute prière invalide dans laquelle ce type de variante est récitée, chose qu'Ibn Mujahid lui-même n'aura pas faite. La question du Coran et des qira'at demeure centrale et fondamentale. Elle sera traitée de manière systématique dans les ouvrages de principologie, tels que le Mustasfa de l'Ghazali, ou bien le Bahr al-Muhit de Zarkashi, ou bien Ibn Hazm avec son Ihkam fi Usul al-Ahkam. Néanmoins, une question doit être posée permettant de mettre le doigt sur la véritable problématique. Quelle est la véritable source, origine, des qira'at? Il n'est pas judicieux, à mon sens, de polémiquer sur la validité du qiyas et de ses fondements après l'établissement des qira'at. Mais il serait plus pertinent de déterminer chez les premiers musulmans les sources à la fois des qira'at, mais aussi du qiyas. En effet, si nous devions nous référer à l'interprétation de la majorité des savants du hadith des Ahruf Saba, la source première des qira'at serait les dialectes des tribaux arabes. Par ailleurs, il s'avère que si les sources du qiyas ne sont en réalité que d'autres dialectes particuliers pour lesquels la tradition est restée muette, l'argument dit du qiyas et de la sunna muttaba'a est impertinent, voire un non-sens, puisqu'en réalité, la source à la fois pour les qira'at et le qiyas est identique. Je parle bien sûr des dialectes tribaux. C'est probablement cela qui incitera Ibn Mirsam, un des contradicteurs d'Ibn Mujahid, mais aussi Zamakhshari, trois siècles plus tard, à déterminer la langue arabe et ses dialectes comme source primordiale de variantes de lecture. En revanche, si l'on pense que ces qira'at relèvent d'un enseignement prophétique et non des dialectes tribaux, alors la source du qiyas ne serait, en ce cas, pas forcément celle des qira'at. Néanmoins, la réalité historique et contextuelle est bien différente. On entendra aussi parler du qiyas en morphologie, en grammaire, dont Ibn Jazari réfutera son emploi en matière de qira'at. Passons maintenant au chapitre suivant, entre Ibn Mujahid, les qira'at et l'ijaza. Après avoir montré le paradoxe de la transmission des qira'at entre la riwaya et le qiyas, je souhaiterais aborder une question un peu plus technique au sujet des modes de transmission. Au début de mon intervention, je définissais la ijaza comme attestation du maître autorisant à son disciple l'enseignement des variantes de lecture. Cette ijaza, incarne la transmission dite riwaya ou sunna muttaba'a. Il est vrai que ce système de transmission sera utilisé pour toutes les autres disciplines, qu'elles soient religieuses ou profanes. Dans son ouvrage As-Sab'a, Ibn Mujahid fait état de sept variantes de lecture du Coran qu'il a choisi. En effet, il commencera son livre par une introduction dans laquelle il tentera d'expliquer ses critères de sélection sans pour autant les clarifier. Son ouvrage est classé par sourate, pour lesquelles il évoquera les différentes variantes de lecture des Qur'an. Pour justifier son choix, Ibn Mujahid se fondera sur le caractère connu du lecteur dans cette région et sur ses connaissances en matière de qira'at. Ce critère reste tout de même subjectif, car ce qui peut être connu dans un endroit pour une personne ne l'est pas forcément dans un autre lieu et pour une autre personne. La position d'Ibn Mujahid sur la nature des qira'at reste néanmoins ambiguë. Dans l'introduction de son ouvrage, il compare les qira'at aux divergences nées des ijtihads des juristes en matière de droit musulman. Cette comparaison soulève une problématique pour le statut des qira'at, puisque les ijtihadat des juristes sont fondés sur une déduction intellectuelle. Les qira'at seraient donc pour Ibn Mujahid la résultante d'un ijtihad. Pourtant, il tentera de démontrer que ces ventes de lecture sont la conséquence d'une tradition suivie et héritée, qu'on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, sunna muttaba'a. Ibn Jazari se rendra compte de cette contradiction et répondra de manière catégorique à Ibn Mujahid sans le citer. Il mettra alors l'accent sur le fait que cette comparaison est erronée, car elle laisse penser que les qira'at sont un choix relevant de l'homme. Cette allusion d'Ibn Mujahid vient donc interférer avec celle de la position de l'orthodoxie qu'il incarne, qui cherche à imposer les sept ahruf comme révélation divine. Ibn Mujahid illustrera son argumentation par des récits attribuant aux compagnons le fait de suivre la tradition de lecture, sunnah muttaba'a, comme elle fut enseignée. Il mentionnera aussi les isnets de ses qira'at remontant ainsi aux sept lecteurs, voire au prophète lui-même. Comme vous pouvez ici l'observer, les gens ont divergé sur la qira'a comme ils ont divergé en matière de droit. Beaucoup de récits rapportés montrent que les lectures des compagnons ont divergé ainsi que celles des tabi'in, et cela par mansuétude. Donc il fait un rapprochement entre les divergences en matière de droit musulman et des qira'at. Donc, comme je le disais au début de mon intervention, les qira'at continuent à ce jour de se transmettre oralement et sont sanctionnés par une ijaza. Ce mode de transmission est répandu et devient une norme et une condition pour toute personne désirant enseigner les matières religieuses. L'ijaza en matière de qira'at est à quelques égards différente de celle établie pour la science du hadith. En effet, les traditionnistes développeront cette question de manière beaucoup plus précise. Ils évoqueront notamment 8 types de transmission, alors que pour les qira'at, 2 types d'ijaza seront retenus. La transmission par audition appelée sama', qui consiste à écouter la lecture du sheikh, ou une transmission s'effectuant par une lecture du texte devant le maître, que l'on nomme al-ard. Il doit notamment faire mention dans cette attestation que le disciple a bien lu devant le sheikh l'intégralité du Coran. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que la terminologie d'ijaza est différente entre les traditionnistes et les qurra. Pour les traditionnistes, la ijaza prend le troisième rang en matière de transmission après le sama' et le ard. Donc l'ijaza est en troisième position après le sama' et le ard. Rappelons que Malik et Bukhari aussi ne font pour le hadith par contre aucune distinction entre ces deux types de transmission. Par ailleurs, cette ijaza est divisée au minimum en 2 parties. La première, l'ijaza al-khassa, qui consiste à une ijaza spécifique qui garantit une transmission intégrale et précise du texte. La seconde, l'ijaza al-amma, qui se définit par une ijaza d'ordre général, ne garantissant pas une transmission intégrale et précise du texte. À partir du quatrième siècle, voire le cinquième siècle de l'ère musulmane, et comme le souligne Al-Khattabi, l'ijaza al-amma, donc l'ijaza à caractère général, sera souvent exprimée par l'emploi du terme akhbarana ou anba'ana. Maintenant, après cette présentation technique, je souhaiterais attirer votre attention sur l'emploi de cette terminologie chez Ibn Mujahid. En effet, dans l'introduction de son ouvrage, Ibn Mujahid emploie 4 expressions, pour déterminer la transmission des qira'at. La première, l'expression « inni qara'tu fa inni qara'tu biha ». Elle indique de manière explicite qu'Ibn Mujahid aurait lu devant le shir de cette manière. Donc là, on la voit ici. « Fa amma qira'atu nafir », donc concernant la variante de nafir, « fa inni qara'tu biha », je l'ai lu devant Abdurrahman ibn Abdous, du début du Coran jusqu'à sa fin, au moins 20 fois. La deuxième des expressions, qui est akhbarana ou akhbarani, pardon, biha, haddathani biha, dans laquelle n'est pas mentionné de manière explicite le fait d'avoir lu le Coran devant le shir. L'absence de cette mention laisse penser qu'Ibn Mujahid aurait pris ses variantes de lecture sous la forme d'ijaza comme expliqué chez les traditionnistes et non sous la forme de riwaya et de sama. Donc on voit ici, il dit « akhbarani », il ne dit pas qu'il a lu, qu'il a été informé par Muhammad ibn Hamad ibn Mahan al-Dabbar, qui a dit « haddathani Abu al-Rabi' » selon Hafs, selon Asim. La troisième des expressions utilisées par Ibn Mujahid, qui est cette fois-ci akhbarana et haddathana, indique probablement que cette forme de transmission fut effectuée à un groupe de disciples et non à un seul. En effet, les verbes akhbarana et haddathana sont conjugués à la première personne du pluriel, contrairement à l'expression utilisée pour le cas numéro 2 où le verbe est conjugué à la première personne du singulier. Vous avez l'exemple ici. Donc ici, wa amma ibn Amir fa inna Ahmad ibn Yusuf al-Taghlabi akhbarana, donc il nous a informé bi qira'atihi, sa lecture. La quatrième des expressions utilisées par Ibn Mujahid est al-wijad. Al-wijad, qui est une terminologie propre aux traditionnistes, consiste à autoriser à une personne la transmission des hadiths contenus dans un livre trouvé, sans pour autant les avoir entendus de l'auteur. C'est-à-dire que si une personne de confiance trouve un recueil écrit de la main de ce maître, il lui est alors autorisé de les transmettre sans pour autant les avoir entendus et récités devant cette personne. Cette forme de transmission reste valide pour une majorité de savants, mais elle sera conditionnée par le fait que celui qui a trouvé cet ouvrage soit impérativement mujaz, c'est-à-dire qu'il soit autorisé à transmettre les mêmes hadiths contenus ou les mêmes versets contenus dans ce recueil. C'est-à-dire qu'il aurait reçu donc la permission de transmettre le contenu de ce recueil. À vrai dire, cette condition est un non-sens, puisque si celui qui a trouvé le livre est déjà mujaz, c'est qu'il a déjà connaissance du contenu et qu'il serait préalablement autorisé à le transmettre. Ibn Mujahid nous informe que le livre de Muhammad ibn Sa'd est une de ses sources les plus importantes en ce qui concerne la lecture de Nafi', mentionnée par Waqidi, qui est le maître de Muhammad ibn Sa'd, qui a écrit l'œuvre At-Tabaqat. Ainsi, Ibn Mujahid s'est permis de transmettre ses manières de réciter d'après Ibn Sa'd, selon donc Muhammad ibn Umar al-Waqidi, sans pour autant les avoir lus devant un de ses maîtres qui les aurait reçus à son tour, soit de Muhammad ibn Sa'd ou de Waqidi ou de un de leurs disciples. Donc ici on a Diqala Abu Bakr, donc Abu Bakr dit, c'est Ibn Mujahid, wa akhadhtu ammat riwayat Muhammad ibn Amr. J'ai pris l'ensemble de la riwaya de Muhammad ibn Amr du livre de Muhammad ibn Sa'd d'après Muhammad ibn Umar. L'attitude d'Ibn Mujahid nous pose une réelle problématique sur les conditions supposées strictes de la transmission des ventes de lecture. Ibn Mujahid aurait-il dérogé au principe de sunnah muttaba'a? Aurait-il transmis des ventes de lecture sans pour autant les avoir lus et entendus de son cheikh, comme il pourrait le laisser entendre? Rappelons que si Ibn Mujahid nous informe à certains endroits du nombre de fois qu'il aurait lu devant son maître telle ou telle vente de lecture, il paraît curieux qu'il ne le mentionne pas pour certaines lectures, mais qu'en revanche, il utilise des termes équivoques et imprécis. Effectivement, pour la variante de Asim et d'Ibn Amir, il ne mentionnera pas le fait qu'il ait pu lire devant son maître, mais il se contentera de dire « il m'a informé de cette lecture ». Il paraît également très curieux qu'Ibn Mujahid se contente de transmettre les hurufs, donc manière de réciter de Nafi', recensés par Waqidi, qui est qualifié de non fiable par les traditionnistes, dans l'ouvrage de son disciple Ibn Sa'd, sans pour autant que cela puisse s'effectuer par le biais d'une transmission orale. J'ajouterai que Zahabi fait état d'un récit où la véridicité d'Ibn Mujahid est mise en cause, est mise en doute sur le fait qu'il ait pu lire le Coran du début jusqu'à sa fin de son maître Qumbul, un de ses professeurs et rapporteurs de la variante d'Ibn Kathir. En effet, Ibn Shanabouz aurait affirmé qu'Ibn Mujahid n'aurait jamais lu le Coran intégralement devant Qumbul, alors que dans son ouvrage As-Sab'a, Ibn Mujahid le laisse entendre. Il utilise effectivement un terme équivoque qui laisse penser au lecteur qu'il aurait lu intégralement cette variante. Il dit alors « J'ai lu le Coran devant Qumbul, ou soit je l'ai lu ainsi ». Abu Ali al-Ahwazi aurait observé le manque de précision d'Ibn Mujahid sur la transmission orale et intégrale du Coran pour certaines ventes de lecture. Il s'interrogera, comme le rapporte Zahabi, sur la raison pour laquelle Ibn Mujahid distingue certaines de ses transmissions en évoquant le nombre de fois récitées devant le cheikh et que parfois il passe cela sous silence. On n'oubliera pas ici de rappeler la relation conflictuelle entre Ibn Mujahid et Ibn Shanabouz, deux grands imams de Qira'at. En conclusion, la transmission des qira'at reste une question problématique. Prétendre affirmer que l'ensemble des qira'at est la conséquence d'un enseignement prophétique serait invraisemblable. Il est vrai qu'à partir du IVe siècle, période de mise par écrit des qira'at, celles-ci vont au fur et à mesure être transmises à travers les générations successives. Néanmoins, la question doit se poser avant cette période, c'est-à-dire avant celle des sept imams de lecture, mais en réalité aussi avant l'époque même des compagnons du prophète. Quelle était la source de leur lecture? Avaient-ils recours de manière récurrente au qiyas? Les exemples que j'ai pu montrer laissent penser que cela est le cas. Comment se fait-il que la traduction textuelle prophétique, « as-sunnah », reste silencieuse sur la manière dont le prophète récitait ? Dans l'ensemble des recueils de hadiths, il n'y a que très peu de récits mentionnant les lectures prophétiques, en sachant que pour la plupart de ces derniers, ils ne sont pas conformes à la graphie uthmanienne et sont considérés comme exclus du corpus coranique. Par ailleurs, il serait intéressant, dans la mesure du possible, d'effectuer un inventaire des qira'at relevant de la riwaya et celles relevant du qiyas. Bien que cela soit très difficile, il pourrait mettre en lumière cette zone d'ombre de la transmission du Coran et de ses qira'at. Ces qira'at relevant du qiyas vont être ultérieurement intégrés dans le corpus coranique par le biais d'un processus de sacralisation. Grâce à cette communication et à défaut d'avoir apporté toutes les réponses, j'espère avoir montré le contexte paradoxal de la transmission du Coran et de ses qira'at. En effet, ce contexte de transmission voit coexister des normes graphiques, orthographiques et linguistiques variées, des modes de transmission multiples, et ces différents éléments interagissent. De ce fait, la mise en articulation de ces disciplines dites religieuses permet de mieux en observer les normes et d'en déceler les imprégnations et les interactions des unes par rapport aux autres. Cela permettra aussi d'identifier les incohérences et les contradictions du récit du corpus coranique et de l'élaboration des qira'at que nombre de savants musulmans essaieront d'inscrire et d'harmoniser dans une logique dogmatique dite cohérente. Merci de votre écoute et de votre attention.